piste humaine sur Mars. Et encore, il faut que celle-ci se
fasse réellement. Parce que j'ai parlé de la Lune, mais c'est vrai qu'il y a aussi des projets sur Mars, évidemment, des deux côtés.
C'est aussi un gouffre financier. Un petit peu comme dans un autre domaine, l'administration Reagan avait poussé l'Union soviétique à davantage consommer dans son armement dans les années 80 pour donner un coup de boutoir final. Ça peut être donc également un piège économique avec le coût à long terme en investissement.
C'est pour les Chinois, comme on vient de le dire, symboliquement, le premier Asiatique à aller sur la Lune, par exemple, puisqu'ils ont le projet sur la Lune, eh bien, pour eux, c'est extrêmement important. Avant les Japonais, avant les Indiens, bien entendu, les grands concurrents, mais aussi parce que ces pays-là ne s'y intéressent pas. Donc, ce qui est assez curieux, enfin, ce qui est assez intéressant avec la Chine et le régime chinois, c'est que finalement, il a des objets, des ambitions qui sont très démodés, comme vous le disiez. C'est très guerre froide. On veut être les premiers. On veut dépasser la Grande-Bretagne, les États-Unis. On veut aller sur la Lune avant l'autre. Donc, c'est à la fois un régime qui est très puissant, qui s'est beaucoup développé, qui se projette d'une certaine manière vers l'avenir, mais avec des critères du passé. Et c'est peut-être ça, en fait, la grande faiblesse de la Chine aujourd'hui. C'est que ces critères de puissance sont beaucoup ceux du passé. En tout cas, d'un point de vue aussi géopolitique, ça coûte, comme vous venez de le dire. C'est des investissements très lourds. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment un signe de puissance pour le 21e siècle? On peut s'interroger.
Le chiffre, donc, il faut le considérer de trois manières. Le chiffre en lui-même des dépenses militaires. Ensuite, le relativiser. Dans le sens que, par exemple, dans le cas de la Chine, il y a énormément de dépenses qui sont liées aux militaires, mais qui ne sont pas reprises dans l'enveloppe du ministère de la Défense et qui viennent quasi doubler quand on les additionne les dépenses réelles de la Chine. Et puis, il faut aussi tenir compte de la parité du pouvoir d'achat qui vient quasi quadrupler ce qu'on peut acheter. Donc, en fait...
Vous nous dites, c'est comme quand on compare les moyens militaires de la Russie et ceux de l'Union européenne. Ce qu'on a beaucoup fait ces dernières semaines, on n'achète pas la même chose en Russie avec un même montant qu'en Europe.
L'homme disait, mais vous devez vous rendre compte que la Chine veut être un pays normal. Un pays normal par rapport à ça, à son importance. Et alors, du point de vue économique, il disait, voilà, la Chine ne représentait du temps de Mao qu'un gros pourcent de l'économie, mais elle doit être à la hauteur de sa taille démographique représentée, 18-20%. Du point de vue militaire, alors on a parlé du côté naval, la marine civile, donc non militaire, est aussi importante, et je crois que c'est important pour la Chine, puisque pour la Chine, il y a quand même, au-delà de la confrontation, il y a, je dirais, son affirmation en mer de Chine méridionale et la connectivité de l'Eurasie qui passe aussi par les routes maritimes. Et que ces éléments-là donc, sont importants pour le grand projet, en quelque sorte. Et donc ça va au-delà des dépenses militaires. Et enfin, il y a un collègue japonais qui m'a dit effectivement que les chiffres qu'on nous donne sont des chiffres que nous ne pouvons pas comparer parce qu'on ne connaît pas suffisamment la Chine pour savoir qu'ils sont bien plus élevés que ce que l'infographie a montré ici.
Parce que finalement, ce à quoi on assiste, c'est une séparation du monde, lente, mais selon des critères très différents. Et finalement, Henry Kissinger, qui avait été l'âme damnée de Nixon, avait dit « les Américains jouent aux échecs, tandis que les Chinois jouent au jeu de Go ». Dans le jeu de Go, en fait, on ne tue pas l'adversaire, mais on l'enserre à mer terre qu'il ne puisse plus respirer. Et donc les Chinois, en fait, ont une stratégie d'expansion à bas bruit, lente, d'influence, avec effectivement les routes de la soie. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Urumqi, qui est en fait le point de départ des routes de la soie. C'est absolument stupéfiant. Et ils veulent en fait
une stabilité qui est permise aussi, évidemment, par un régime qui est totalement différent.
Oui, et leur force par rapport à l'Europe, c'est de nous convaincre que finalement, si on change de polarité, qu'on quitte le monde occidental traditionnel des États-Unis pour se rapprocher de la Chine dans un rapport plus équilibré en termes commerciaux, finalement, la prospérité sera partagée entre les deux sous-continents. Et donc voilà, on a une nouvelle réalité sociopolitique qui, je crois, doit être analysée. Parce que l'erreur qu'on ferait, qu'on pourrait faire, c'est de voir le monde avec les yeux du libérateur américain de 1944, ou les yeux de la guerre froide. On n'est plus dans ce scénario-là. Vous faisiez référence tout à l'heure au fait qu'il y avait de vieux symboles qui étaient utilisés pour affirmer la suprématie, mais on reste quand même dans des logiques différentes. Et l'Europe, aujourd'hui, est en fait à un point de choix. Savoir, est-ce qu'on va, nous, continuer à tendre la main aux États-Unis alors que finalement, ils considèrent qu'ils ne nous doivent plus rien, ou est-ce qu'on va au contraire se rapprocher de manière prudente de la Chine pour retrouver une prospérité que de manière intérieure, suite notamment au vieillissement de la population, on n'est plus capable de générer.
De vivre des moments historiques et qui vont encore durer quelques années. On est dans un tournant dont je pense on ne mesure pas réellement l'ampleur. Ça fait des siècles qu'on n'avait plus vu un changement dans l'architecture des relations internationales, dans la nature des relations internationales.
Des siècles ?
Oui. Probablement. Depuis la chute de Constantinople, ou voilà. Donc depuis le 15e, 16e siècle facilement. Donc l'impact est beaucoup plus grand que la fin de la guerre froide, que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient des épisodes. Et on voit.
Qui ont quand même aussi été des périodes de reconfiguration.
Bien sûr, mais ce sont des épisodes. Moderne, qui est celui d'un certain globalisme, bon, qui a été redéfini à plusieurs reprises au fil des siècles, et puis ce qu'on appelle le modèle multinodal, à ne pas confondre avec le multipolaire. Le multinodal, c'est une architecture qui est beaucoup plus horizontale, mais cependant pas plate, parce qu'il y a un équilibre des puissances, où tout le monde n'a évidemment pas le même poids, et où chaque node, c'est-à-dire chaque pays, aurait à terme un panel de jeux, de partenariats, etc., avec lequel il jonglerait et lui permettrait un peu plus de liberté stratégique, on va dire.
C'est ça.
Et donc, il y a effectivement des pôles de puissance, mais qui peuvent bouger en fonction des sujets. Et donc, l'ordre international, en fait, ça peut être... L'ordre, ça veut dire la configuration. Et la configuration peut être désordonnée, en quelque sorte. Et donc, je ne sais pas si la Chine... Alors, la Chine dit... En tout cas, si on écoute Xi Jinping, la Chine va être la première puissance mondiale. Mais est-ce que la Chine va être celle qui voudra véritablement créer la nouvelle architecture ? J'ai tendance, quand je regarde les discours de Xi Jinping, c'est plutôt un monde apolaire, en quelque sorte, un monde qui n'est pas messianique, qui n'a pas, comme les États-Unis avaient, avant Trump et avant, même après 1945, l'idée d'avoir un message pour le monde.
Et ils ne veulent pas inonder le monde de séries chinoises, par exemple. Ils ne veulent pas qu'on vive nécessairement comme eux ou qu'on mange comme eux, c'est ça que vous dites?
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux États-Unis, par exemple, à la fin de la guerre froide, le conseiller à la sécurité nationale de Bill Clinton, Anthony Hague, dit « c'est le moment de l'enlargement ». C'est-à-dire qu'il faut élargir à la fois l'économie de marché et la démocratie. Ça, c'était l'objectif un peu mythique, un peu idéaliste.
Répandre son modèle. Voilà. Les Chinois ne veulent pas répandre le modèle socialiste partout.
Mais les Chinois, justement, ils veulent répandre le modèle socialiste, sûrement pas. Mais les Chinois veulent répandre l'anti-modèle, enfin le non-modèle en quelque sorte, en disant, vous voyez, nous, on ne donne pas de conditions. Tous les États du monde sont des clients et des fournisseurs. Et donc, il n'y a pas véritablement un modèle politique ou idéologique.
Une stratégie de survie d'un système politique qui est assez obsolète dans ses principes. La Chine est la dernière grande démocratie populaire au monde. Elle a survécu parce qu'elle s'est réformée, elle s'est ouverte. Et donc le monde doit servir ses intérêts.
Mais vous utilisez le mot démocratie.
Démocratie populaire, c'est le terme officiel. Ouais. Donc il faut que le monde serve ses intérêts. Pour ça, elle a intérêt à séduire les pays qu'on appelle... un terme très, à mon avis, faux, mais le sud global, acquérir des ressources, etc., aux meilleurs tarifs, ouvrir les grands marchés. Et puis, ce que Trump, effectivement, lui offre sur un plateau, et c'est en ça que c'est dangereux, la possibilité de retrouver du jeu dans ses relations avec l'Union européenne d'un côté et des pays comme le Japon de l'autre, qui étaient très vigilants à l'égard de la Chine, mais qui, là, aujourd'hui, se disent, bah, finalement, si les États-Unis nous laissent tomber, il va bien falloir trouver une manière de coopérer avec les Chinois. Et pour Pékin, c'est évidemment tout bénéfice.
Oui, c'est important à souligner, c'est que les Américains, dans leur longue tradition de la doctrine Monroe, sont isolationnistes. Les Chinois sont prosélytes. Ils veulent développer un modèle par agrégat, vous l'avez très bien expliqué. Et l'histoire des BRICS+, c'est-à-dire cet ensemble de pays qui sont... on va dire qu'ils ne sont pas joints géographiquement, mais qui adhèrent
à ce modèle. On parle du Brésil, de l'Afrique du Sud,
d'autres pays, bien, rejoints récemment par l'Iran et l'Afrique du Sud. Ce sont des pays, en fait, qui réfutent le monde occidental, à deux motifs principaux. D'abord, ils considèrent avoir été les victimes d'une sorte de colonisation commerciale, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et puis, ils considèrent que le modèle occidental a fait de l'argent et plus avec le travail. Logorique est d'ailleurs reprise par le vice-président américain. Mais donc, il y a une diffusion, lente, à bas bruit, du modèle chinois, par contamination vers d'autres pays, ce qui est tout à fait à l'opposé de l'allégorie violente de Trump, qui est en fait, lui, non pas l'homme du XXe siècle, mais du XIXe siècle, c'est-à-dire qui veut des acquisitions territoriales. Donc, je pense qu'il faut garder cette nuance. Je crois que les Chinois sont bien plus habiles, subtils, voire rusés, que les Américains dans cette nouvelle configuration.
Alors, la puissance chinoise et ses ambitions.
L'hégémonie américaine est sur le déclin. La dynamique de pouvoir entre les États-Unis et la Chine n'est plus la même qu'il y a 70 ans, lors de la naissance de la République populaire de Chine. Ce ne sont plus les grenades chinoises contre la bombe atomique américaine. Aujourd'hui, c'est bombe atomique chinoise contre bombe atomique américaine. On joue dans la même cour. La Chine sera la première puissance mondiale. 2. Notre armée sera la plus puissante du monde. 3. La Chine sera réunifiée et Taïwan retournera à la mère patrie.
On voit régulièrement invité à des colloques et qui est là pour jouer ce rôle-là.
Pour se faire mousser un peu.
De déclarer... Non, mais il est totalement intégré au système. Hein, donc, mais simplement, des grandes déclarations hypernationalistes. Ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas du tout l'ambition de conquérir Taïwan, par exemple. Hein. Bien sûr, ça fait partie du projet. C'est la réalisation du grand rêve chinois que met Xi Jinping en avant. En revanche, l'affirmation du fait que ça y est, la Chine est devenue la plus grande puissance dans le monde, que rien ne peut lui résister, est à mon avis un peu prématurée. Et c'est ça qui fait hésiter les Chinois. Pour conquérir Taïwan, il faut des moyens considérables que la Chine a de plus en plus. Les drones, par exemple, c'est très important. Elle y attache beaucoup d'importance. Simplement, traverser un jour, il faut bien occuper Taïwan, traverser ce détroit qui fait presque 200 km, ça n'est pas du tout simple. Amasser des troupes, des missiles pour framer, ça n'est pas du tout simple. Mettre en place un blocus qui serait un blocus militaire, ça n'est pas simple non plus. Mais la Chine n'est absolument pas certaine que les États-Unis ne feraient rien, par exemple, ou qu'elle ne serait pas soumise à des sanctions très lourdes d'un point de vue économique. Or, elle doit préserver sa croissance économique. Donc je pense qu'on n'aura peut-être pas d'invasion de Taïwan. En revanche, on va avoir une multiplication des tensions, des manœuvres, des discours très va-t-en-guerre, parce que justement, on est en pleine guerre psychologique. Ce qu'il faut, c'est faire peur à l'adversaire jusqu'à ce qu'il cède finalement, comme disait Sun Tzu que j'avais traduit, sans avoir à combattre, c'est-à-dire terroriser à l'idée qu'il puisse y avoir une guerre, eh bien, on accepte tout.
Et dans les objectifs pour se saisir de Taïwan d'une manière ou d'une autre, il y a des objectifs symboliques, de réjuvénation de la nation chinoise, d'unification symbolique, de dernière province dite rebelle à réincorporer, mais aussi...
Récupérer un territoire qui appartient à la Chine du point de vue chinois.
Voilà, mais c'est avant tout un objectif pragmatique. C'est ce qu'il y a derrière le discours idéologique, parce que l'île de Taïwan est le verrou central de cette première chaîne d'îles du Pacifique Ouest que vous venez de montrer sur la carte. Mmh. Et donc, c'est à la fois le verrou entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud dans cette zone-là, mais également le continent et l'océan, qui tient Taïwan, tient la première chaîne d'îles, et donc tient, entre guillemets, l'Asie, ou en tout cas l'Asie-Pacifique.
Et on parle de terre presque perdue en mer de Chine, grand comme la Belgique, mais deux fois plus peuplée. Taïwan, minuscule État asiatique, dont le territoire est revendiqué par la toute-puissante Chine. Taïwan, petit dragon d'Asie, dans le top 15 des pays les plus riches du monde. Américains comme Chinois ont bien compris son importance géographique. Le détroit de Taïwan, plus de 350 km de long, 180 km de large, relie la mer de Chine orientale à la mer de Chine méridionale. Une voie maritime essentielle à la navigation, un passage obligé pour les échanges commerciaux du monde entier. Les eaux sont stratégiques et riches, alors USA et Chine veulent être présents. Les États-Unis, en jouant le rôle de gendarme des mers asiatiques, via des liens, des bases en Corée du Sud, au Japon, aux Philippines. La Chine, en explosant sa puissance maritime. D'ici 2035, avec 350 navires en tout, la flotte chinoise pourrait bien repousser l'influence américaine et les velléités indépendantistes taïwanaises.
L'indépendantisme taïwanais et la paix sont incompatibles avec les provocations des forces indépendantistes. Elles feront l'objet de ripostes. La Chine s'est toujours engagée à favoriser la paix dans la région. Si vous vous préoccupez de la paix, la première chose à faire est de s'opposer à l'indépendance de Taïwan. Taïwan a aussi et surtout une importance économique. Les fameux semi-conducteurs et autres circuits intégrés essentiels à nos téléphones, avions, panneaux solaires sont produits ici. 63% du marché mondial.
Taïwan a su investir lourdement dans ce secteur pour lui permettre de rester en tête dans la course technologique. L'île traite avec la Chine, comme avec les États-Unis. Les deux puissances sont dépendantes de Taïwan. Et Donald Trump se montre prudent quand on lui demande s'il protégera Taïwan en cas d'invasion chinoise.
Je ne veux pas me mettre dans cette position, mais je peux vous dire que j'ai une grande relation avec le président Xi. Il y a beaucoup d'argent qui vient et nous allons investir en Chine. Nous allons faire des choses avec Chine. La relation que nous avons avec Chine sera une très bonne one.
Taïwan, interprété comme étant des démonstrations de force, alimente les inquiétudes quant à une escalade militaire.
En tant qu'État membre autoritaire, la Chine croit que la puissance militaire donne raison. Son obsession à résoudre des désaccords par la force militaire est la raison principale de ses exercices.
Une annexion militaire de Taïwan aurait entre autres pour objectif et conséquence d'affaiblir nettement la présence américaine dans la région et d'affirmer la domination chinoise. Pour l'instant, Taïwan aborde une posture très prudente qui consiste à ne fâcher personne tout en se préparant au pire. Mais il est de plus en plus difficile pour ce petit bout de terre de maintenir un équilibre subtil entre la Chine et les États-Unis.
Il est très peu probable que les États-Unis défendent Taïwan. D'ailleurs, il n'y a jamais de confrontation entre deux grandes puissances. La dernière fois que les Américains et les Chinois sont opposés, c'était en 1953, au thème de la guerre de Corée. Et Trump veut une relation commerciale. Donc je pense que si à un moment, les capacités de production taïwanaises sont rapatriées ailleurs, notamment aux États-Unis, en fait, il va laisser tomber Taïwan, au profit peut-être d'une non-intervention chinoise ou russe dans d'autres pays comme le Groenland. Et c'est peut-être vrai pour d'autres pays comme la Corée du Sud et le Japon. Mais croire que les Américains vont à un moment engager des troupes, comme ils l'ont fait en Afghanistan et surtout au Vietnam, pour défendre des pays lointains et des causes finalement probablement perdues, dans un monde qui est devenu tout à fait différent de celui de l'époque, c'est-à-dire avec une Chine une forte, me semble illusoire.
Avec le
côté, le discours chinois, et depuis 20 ans, je crois que c'est relativement clair, c'est que la déclaration d'indépendance de Taïwan, ça c'est un casus belli. Ça c'est l'entrée en guerre, je dirais, certaine. Mm-hmm. Et que normalement, les Taïwanais, avec la pression des Américains, sont suffisamment intelligents pour ne pas déclarer l'indépendance, même si on a un parti indépendantiste.
C'est parce que le nouveau président
de Taïwan est indépendant de fait, et que donc ils n'ont pas besoin de toute manière de déclarer l'indépendance. Ils récusent totalement ce terme d'indépendantiste utilisé par Pékin.
Les héritiers de Chiang Kai-shek, le Kuomintang, est préféré par Pékin parce que pendant longtemps, mais maintenant ça, ils ont oublié, ils disaient qu'ils allaient reconquérir la Chine.
Quand on parle des héritiers de Chiang Kai-shek, pour que tout le monde suive, en fait, c'est ça l'histoire de Taïwan. Hein,
donc c'est-à-dire que c'est les nationalistes qui avaient été mis à la porte de la Chine par les communistes et qui s'étaient réfugiés dans l'île de Formose, dans l'île de Taïwan, et en pensant que c'était une posture d'attente et qu'ils allaient reconquérir par la suite la Chine. Une démocratie populaire, ce qui n'est pas un pléonasme, c'est plutôt un oxymore en ce qui concerne la Chine, donc une contradiction dans les termes, Taïwan est vraiment devenue une démocratie.
C'est ça le problème des Chinois d'ailleurs.
Et donc, une démocratie malgré tout, et qui est difficilement absorbable dans la grande Chine, mais également, mais ça c'est mon optimisme, c'est qu'au bout du compte, les démocraties résistent mieux parce qu'elles ont quelque chose à défendre. Mmh.
Ouais. Mais c'est pas comparable avec ce qui...
Concession. Et puis progressivement, il y a eu effectivement une mainmise de la Chine. Mais c'est quand même relativement différent, parce que la rétrocession, elle devait avoir lieu.
Mm-hmm. Ce qui se passera, de manière belliqueuse ou pas, ce sera une question d'abord d'opportunité, de nécessité et de timing. Ça, c'est tout un débat à part. Maintenant, pour ce qui est de l'intervention des États-Unis, c'est-à-dire que je pense... Et c'est une question de mathématiques, qu'ils interviendront, mais sans intervenir. C'est-à-dire qu'ils vont faire une certaine gestuelle, ils vont faire un geste, mais le rythme auquel pourrait se passer une invasion, et le temps et les moyens nécessaires que pour traverser le Pacifique, et puis surtout le nombre de forces disponibles immédiatement pour les Américains, tout ça est très réduit. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est un scénario, en tout cas pour le début, un petit peu à la manière de la première guerre du Golfe, où il y avait eu d'abord Desert Shield et puis Desert Storm, et qui aurait peut-être un déploiement à la périphérie, par exemple un renforcement de la présence au Japon, pour rassurer en même temps des partenaires et des alliés, et pour envoyer un message à la Chine, ok, vous venez peut-être de saisir l'île de Taïwan, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mm-hmm. Et on verra. Wait and see.
Je parle d'un sujet très chaud, et que s'il y a un conflit à Taïwan, Que feront les États-Unis? On n'en sait rien, il y a toujours cette fameuse ambiguïté stratégique. Tout dépend aussi de savoir quand éventuellement les Chinois se lanceraient dans l'aventure. Sous Trump, après Trump, sous Vance, enfin, ce qui se passe aux États-Unis est important.
Mais ils ne se lanceront dans l'aventure que s'ils ont la certitude que les États-Unis n'interviendront pas.
Je pense que le risque, en cas de défaite du système politique chinois pour conquérir Taïwan, est trop grand pour qu'ils prennent le risque de se lancer dans une aventure qui, bien sûr, les États-Unis, que faire, peut-être n'interviendront pas. Mais les Chinois ont beaucoup de mal également à masser des troupes, à, ne serait-ce qu'à mobiliser des missiles. Les États-Unis peuvent intervenir, non pas en envoyant des hommes, ça, à mon avis, c'est dépassé. En revanche, on le voit bien dans la guerre en Ukraine, s'ils le veulent, ils peuvent intervenir en matière d'information, d'observation, d'aide au combat. Ils peuvent être tout à fait actifs et engagés sans l'être directement sur le terrain. Et il ne faut pas du tout oublier une chose, c'est que bien sûr la Chine est très puissante sur le papier militairement, elle l'est bien plus que l'ensemble de ses voisins. Taïwan, ce n'est pas non plus totalement négligeable, ils ont des capacités aussi. En revanche, la Chine n'a aucune expérience du combat, et encore moins du combat moderne. C'est une armée de guérilla qui est devenue l'armée populaire de libération. Elle s'entraîne entre elles, un peu avec les Russes, mais pas tant que ça. Elle n'a pas d'expérience du combat moderne. Et quand on sait ce qu'est un conflit moderne aujourd'hui, surtout les moyens logistiques pour traverser un détroit, on a vu la difficulté des Russes pour entrer en Ukraine au début, avant qu'ils s'accrochent. En réalité, c'est un défi absolument considérable. Et je ne suis pas certaine que le régime chinois, qui a besoin de préserver son image pour survivre, prenne ce risque.
Mené contre le Vietnam, par le nord du Vietnam, pour protester contre le fait que le Vietnam avait libéré ou envahi le Cambodge, selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre. Et ça n'a pas été une expérience extraordinaire, en quelque sorte. Hein, Donc, sur ce plan. Et en plus, c'était très, très ponctuel. Donc, effectivement.
Et pas avec les moyens de l'autre, surtout.
Voilà.
La guerre est très rapide.
Tout à l'heure, les Chinois jouent au jeu de Go. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de placer des